Bonjour Michel Viborca.
Bonjour.
Sociologue, auteur de Métamorphose ou Déchéance, où va la France? Cela paraît aux éditions Rue de Seine. Merci d'être avec nous, Michel Viborca, ce matin sur Europe 1. En introduction de votre livre, vous faites le constat que la crise sanitaire que l'on traverse depuis bientôt 2 ans a mis en quelque sorte en lumière ce que je pourrais appeler les défaillances de l'État et a révélé la fracture entre l'État et la société civile. Cette période que l'on traverse, Michel Viborca, est-ce que c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce qu'il faut faire pour que la France soit capable politiquement de répondre aux grands défis du futur?
Bah écoutez, vu la situation, nous avons absolument besoin de nous projeter vers l'avenir et de pas garder uniquement le nez sur l'actualité. C'est indispensable, mais ça n'est pas facile. On n'y est pas, comment dirais-je, encouragé, parce qu'on est sans arrêt pris par l'information.
Mmh. Cette métamorphose de l'État, elle doit se concrétiser comment, Michel Viborca?
Écoutez, c'est compliqué, parce que ce que l'on a vu, c'est plusieurs choses. On voit depuis, sur la longue durée, depuis plusieurs dizaines d'années, un État politique qui, quand je dis un État politique, un système politique, mm-hmm. qui a de moins en moins la confiance des citoyens, et en même temps, nous sommes dans un pays où les citoyens adorent leur État, ne parlent que de l'État. Dans beaucoup d'autres pays, l'État est moins important. Mm-hmm. Donc, premièrement, manque de confiance, défiance, affaiblissement donc de la relation de l'État politique à la société. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est pour ça que tout ça est très compliqué, deuxièmement, il n'y a pas que des politiques qui font tourner l'État. Il y a aussi ce qu'on peut appeler l'État administratif. Moi, j'ai appelé ça l'État permanent.
C'est ça.
Qui sont là que les politiques soient les mêmes ou qu'ils changent, en principe. Et donc, cet État administratif, la crise sanitaire a révélé certaines de ces immenses carences, difficultés, en particulier dans le domaine de la santé. Et donc, je vais pas faire l'historique et je vais pas charger le pouvoir actuel, parce que c'est des choses anciennes,
oui.
qui datent d'il y a longtemps. Mmh. Mais on a vraiment des gros problèmes à régler. On n'est pas tout à fait à la hauteur, si vous voulez, à bien des égards du côté de cet État.
Et le constat...
Excusez-moi, je vous en prie.
Non, je voulais. Vous faites le constat aussi que tout cela résulte d'une élite qui semblerait déconnectée en quelque sorte. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que la confiance revienne entre la société civile et l'État dont vous parlez.
Alors, on peut voir les choses par le haut ou par le bas. Si on les regarde par le haut, il y a toutes sortes de solutions qui sont proposées. Il y a des gens qui vous disent faut changer de constitution, faut passer à la 6e République, faut modifier le système électoral, faut introduire de la proportionnelle. Je note d'ailleurs que le gouvernement, que Emmanuel Macron l'avait promis, qu'il n'a pas pu le faire.
Oui.
Peut-être parce qu'il n'a pas su convaincre le Sénat qui a bloqué. Mmh. Enfin, c'est comme ça. Donc, on peut réfléchir comme ça par le haut. On peut réfléchir aussi en se disant qu'il faut reconstruire des médiations entre le haut et le bas, entre l'État et la société. Que, comprenez, quand on a un pouvoir qui vous dit « moi, les syndicats me cassent les pieds », quand on a un pouvoir qui dit « il y a un observatoire de la laïcité, je le ferme », quand on a un pouvoir qui, d'une certaine manière, ne se préoccupe pas beaucoup des parlementaires...
Ou des élus locaux, ou des maires...
Ou des élus locaux, enfin, bref, un pouvoir qui ne s'intéresse pas aux médiations, qui dit « moi, je gère les choses directement, verticalement, du haut vers le bas », eh bien, on peut se dire que c'est fâcheux. Mmh. Parce que ce qui revient de la société, c'est quoi? C'est que les demandes, les attentes ne sont pas traitées comme elles devraient l'être.
Il faut rendre leur place aux corps intermédiaires. Hein. Ça a été l'une des grandes réflexions, finalement, du début du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Oui, et le choix a été très très clair. Hostilité, réticence vis-à-vis des corps intermédiaires. Mmh. C'est très très clair. Et vous savez, c'est une drôle d'affaire. Parce que c'est un mélange d'attitudes qu'on peut appeler libérales et de référence à quelque chose qui date de la Révolution française. Pendant la Révolution française, il y a eu une loi, la loi Le Chapelier, qui disait interdiction des corps intermédiaires, pratiquement, des corporations, etc.
Mmh.
Et donc, d'une certaine façon, le pouvoir actuel est l'héritier d'un mélange de libéralisme, moins d'État, une économie plus libre, si vous voulez, et d'attitudes qui héritent de la Révolution.
Ouais. Cette remise en cause de la légitimité des gouvernants dont vous parlez, Michel Viborca, est-ce qu'elle n'est pas un peu contredite actuellement par le fait que, globalement, les citoyens acceptent finalement les mesures de restriction de liberté qui sont prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie?
Les citoyens n'ont pas beaucoup le choix. Les citoyens voient bien qu'il y a une question de vie ou de mort. Quand on a des enjeux de vie ou de mort, on est au-delà de la politique, au-delà de la critique de l'État. Ou alors on considère que ce qui est fait ne répond pas à... n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Ouais. Donc là, on rentre dans des choses extrêmement graves. Mais il y a autre chose. On est dans une société qui n'est plus capable, et là maintenant je regarde les choses par en bas, qui n'est plus capable, comme avant, de construire des mouvements, des contestations susceptibles d'aboutir à des négociations et à des compromis. On a eu les gilets jaunes qui sont vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mmh. Les gilets jaunes ne voulaient pas négocier ou ne savaient pas négocier, ne voulaient pas être organisés. C'était un mouvement horizontal pendant que l'État, lui, fonctionnait de manière verticale. Et donc, si vous voulez, on a aussi un problème de capacité de la société civile à construire les contestations qui peuvent déboucher, elles aussi, vers des négociations, des discussions, des échanges.
Et le problème, c'est que bien souvent, ça se termine par la violence.
Alors, écoutez, on vient d'entendre sur votre antenne, il y a un instant, ce qui se passe dans les stades. Ouais. Mais je voudrais qu'on soit prudent sur le thème de la violence. Parce que d'un côté, oui, quand il n'y a pas les médiations, les conflits, les problèmes, les différences, tout ça n'est pas traité, donc ça ouvre l'espace de la violence. Mais il faut regarder aussi la face positive des évolutions de notre pays. La violence a reculé dans au moins deux domaines. Elle a reculé, ou en tout cas elle est contrée, en ce qui concerne les violences subies par les femmes. Mmh. Et ça, on le doit quand même à la contestation, appelons-la féministe, oui, premièrement. Mmh. Et deuxièmement, elle a reculé aussi là où elle était dans le temps recouverte par le secret des institutions. Mmh. Regardez ce qui s'est passé pour l'Église catholique avec la Commission Sauvé. Donc, d'un côté, oui, on a cette violence du genre stade, du genre Black Bloc avec les gilets jaunes, bien sûr, et c'est quelque chose de crucial. Mais on a eu aussi des reculs importants dans les institutions ou dans les rapports entre les hommes et les femmes.
Est-ce que vous faites, Michel Wewiórka, partie de ceux qui s'inquiètent des restrictions de liberté actuellement ?
Je m'inquiète des restrictions de liberté dans la mesure où elles risquent d'être durables. Si elles sont provisoires, si elles disparaissent aussitôt finie la pandémie, s'il s'agit de la crise sanitaire, ouais, si elles disparaissent aussitôt repoussées la menace terroriste, qui me semble plus délicat d'ailleurs, je ne m'inquiète pas trop. Le problème, c'est que quand un pouvoir met en place ce genre de restrictions, ensuite, on ne recule pas. C'est rare. Mmh. Et donc, le risque, si vous voulez, c'est de transformer des mesures d'exception en loi et en pratique qui sont durables. Et ça, c'est très préoccupant, effectivement.
L'autre constat que vous étudiez dans votre dernier ouvrage, Métamorphose ou déchéance, Michel Wewiórka, c'est celui du déclinisme, de ce sentiment ambiant qui par ailleurs nourrit le vote en faveur des extrêmes comme Éric Zemmour. C'est un constat que vous faites, ce déclin, ou alors au contraire, il faut lutter contre?
Ah, écoutez, moi, je fais des constats, bien sûr, mais je ne suis pas décliniste, je ne me vautre pas dans l'idée que nous sommes en déclin. J'y résiste, en quelque sorte. Donc, à partir de là, il faut réfléchir à comment sortir de cette situation, qui est quand même pas une situation catastrophique, mais quand même une situation difficile, très préoccupante, bien sûr. Or, je constate qu'il y a beaucoup de méfiance dans notre pays, et c'est pas récent, ça date d'il y a au moins une vingtaine d'années. Beaucoup de défiance, beaucoup de haine aussi, d'où la violence dont on vient de parler, qu'il y a beaucoup de problèmes très très préoccupant, et que par conséquent, il faut réfléchir à la façon dont nous pourrons nous reprojeter vers l'avenir, un peu plus sur le long terme, si vous voulez. Oui. J'étais très déçu, je vous le cache pas, par ce qui s'est passé avec le haut-commissaire au plan récemment créé. Parce que dans le passé, le plan, c'était formidable. Le plan, c'était pas seulement la planification, c'était surtout le lieu de discussion, d'échange. Vous aviez des patrons, des syndicalistes, des politiques, des administratifs, des grandes associations, enfin, vous avez et des chercheurs aussi en sciences économiques, en sciences sociales, ouais. Enfin, vous aviez un très grand nombre de personnes qui discutaient, qui réfléchissaient comment construire l'avenir. Or, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une structure qui porte ce nom, alors on est content. Et puis quand on va voir la réalité qui est au plus loin de ce que je viens d'évoquer.
Je voulais vous interroger également sur le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Vous faites partie de ce Conseil national, alors qui pour l'instant est une structure un peu, comment dirais-je, non officielle, hein, en quelque sorte. C'est un Conseil national qui interpelle les pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte de la vieillesse dans les politiques publiques, c'est ça, pour la rendre un peu plus visible Et vous soutenez cette démarche?
Ah, non seulement je la soutiens, mais je suis
l'un de ceux
qui l'ont initié. Donc je pense qu'elle est tout à fait importante. Écoutez, quand les choses ne se font pas de haut en bas, depuis le pouvoir central vers la société civile, la loi sur le grand âge n'a pas été votée. Ouais. Elle aurait dû, d'une manière ou d'une autre, prévoir la mise en place d'une instance qui se serait préoccupée de la vieillesse comme une instance se préoccupe du handicap, si vous voulez. Eh bien, puisque les choses se font pas du haut vers le bas, et nous avons dit, nous allons faire monter la pression du bas vers le haut, de la société civile vers le haut, parce que les personnes âgées ne sont pas seulement un problème, elles sont aussi une solution, elles sont aussi... dans combien de familles aujourd'hui, heureusement qu'il y a des personnes âgées pour aider financièrement les plus jeunes, pour accompagner les petits-enfants à l'école, etc.
Donc il faut que
c'est considérable.
Il faut qu'elle soit mieux prise en compte et mieux intégrée finalement en politique, la société.
Qu'elle puisse s'exprimer, prise en compte,
qu'on
écoutée, entendue, c'est tout à fait capital. Dans mon livre, je montre, et c'était avant qu'on crée ce conseil autoproclamé, je montre à quel point les personnes très âgées dans les EHPAD ont été abandonnées. Ça a été terrifiant, terrifiant. Bon, ça n'est pas acceptable. Une société comme la nôtre doit changer ça.
Il faut donc en tirer les leçons. Merci Michel Wieworka, sociologue. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Métamorphose ou Déchéance, où va la France? C'est publié actuellement aux éditions Rue de Seine. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Bonne journée.
Merci. Merci à vous.